Bonsoir Raphaël Delvolvé.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. C'est un effet de la reprise économique dont beaucoup de Français se seraient bien passés. Le tarif réglementé du gaz va prendre 10% dès le 1er juillet. Conséquence d'un marché de l'énergie en tension. Explication de Fabien Cazot dans quelques instants. Dernières heures de campagne pour les régionales et les départementales. Nous nous intéresserons à l'Île-de-France dans ce journal. Une quadrangulaire avec une liste de gauche qui talonne la LR Valérie Pécresse et au milieu, un rassemblement national aux ambitions modestes, l'opposition, rien que l'opposition à la future majorité. Et puis, le Premier ministre hongrois Viktor Orban rappelait à l'ordre ces dernières heures au sommet européen de Bruxelles, un cluster géant de Covid aux Baléares. Et puis nous irons aussi dans l'immortelle Villa Médicis à Rome. L'Académie de France a 350 ans et elle est toujours une référence de la création contemporaine.
France Inter.
Surveillez donc bien vos prochaines factures de gaz si vous êtes éligible aux tarifs réglementés d'Engie. Ils sont en forte hausse, près de 10% à partir du 1er juillet. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
La commission de régulation de l'énergie donne les raisons de cette flambée, à commencer par une reprise économique forte.
Et oui, et qui dit reprise économique dit consommation d'énergie à la hausse, notamment dans l'industrie, ce qui fait grimper les prix, tous les prix, même sur le marché réglementé pour les particuliers qui y sont encore. En plus, l'hiver a été froid cette année, plus froid que les années précédentes. Donc il y a une forte demande depuis plusieurs mois et en face, quelques baisses d'approvisionnement, notamment depuis la Russie, deuxième producteur mondial, qui fournit à l'Europe un tiers de son gaz. Forcément, les prix augmentent, mais il y a aussi un effet de rattrapage. Les cours avaient baissé pendant les confinements. Sur 2 ans et demi, la hausse globale est de 1,1%.
Donc le prix du gaz augmente en juillet prochain. Et Fabien, il va falloir s'attendre à la même chose pour l'électricité. Là.
Oui, en partie d'ailleurs à cause des cours du gaz. D'abord parce qu'ils interviennent dans le calcul très compliqué du prix de l'électricité. Ensuite parce que le gaz sert aussi de matière première dans les centrales thermiques, du moins dans celles qui ne tournent pas au charbon. Donc forcément, quand le prix de la matière première augmente, celui du produit fini augmente aussi. Et puis, en France, il y a d'ores et déjà des hausses de prix d'acheminement de l'électricité qui sont programmées pour les prochaines années pour financer l'investissement dans les réseaux de transport et de distribution avec des effets attendus sur la facture finale des consommateurs jusqu'en 2024.
Voilà, alerte sur nos factures de gaz et d'électricité. Merci Fabien Cazot. L'actualité économique, c'est aussi le recul du chômage au mois de mai, baisse de 3,5% des demandes d'emploi de catégorie A, évolution expliquée par le déconfinement, mais qu'il faut également tempérer par une hausse de 4,4% des chômeurs de catégorie B et C, c'est-à-dire des travailleurs à activité réduite.
À minuit, Raphaël, la campagne des élections régionales et départementales sera officiellement terminée.
Et demain, nous respecterons le traditionnel silence électoral. Un jour sans propagande politique pour laisser aux électeurs faire tranquillement leur choix pour le second tour de dimanche. Pour qui voteront-ils et surtout iront-ils voter? On rappelle la forte abstention du premier tour, plus de 67%. Nous nous penchons sur l'Île-de-France où il y a une quadrangulaire. La présidente sortante, la LR Valérie Pécresse, est en ballottage favorable. Et pour son rival du Rassemblement National, Jordan Bardella, arrivé deuxième dimanche, le match est déjà plié. Mais il y a bien un enjeu. Jordan Bardella était l'invité de Bruno Duvic dans le 13-14 de France Inter tout à l'heure.
Dans une élection comme celle-ci où une grande partie de nos concitoyens se sont abstenus, il y aura évidemment un second tour dimanche dans 48 heures où j'appelle les franciliens à aller voter. Mais tout le monde sait, s'agissant de l'Île-de-France, que Valérie Pécresse va être élue et que l'enjeu de dimanche est de choisir une opposition à Valérie Pécresse. Et moi, je suis venu dire que c'est une élection à la proportionnelle. Donc plus les gens iront voter, plus nos électeurs iront voter, plus ils auront pendant 6 ans à la région Île-de-France, des élus Rassemblement National qui seront intransigeants. J'ai noté qu'une grande partie de ce qu'avait fait Valérie Pécresse pendant son mandat, que ce soit la gratuité des transports pour les clandestins notamment, le financement des seringues pour les toxicomanes à Stalingrad, avait été applaudi par la gauche. Évidemment, nous opposons à cela. Et pour cela, il faut avoir des élus RN à la région Île-de-France. Et donc, c'est encore possible dimanche puisqu'il y a 2 tours.
Jordan Bardella, candidat du Rassemblement National en Île-de-France. Et dans ce match à 4, il y a aussi Laurent Saint-Martin pour La République En Marche. Et une union des gauches menée par l'écologiste Julien Bayou. La liste reçoit le soutien d'un nouveau poids lourd de la gauche après François Hollande et Lionel Jospin. L'ancienne ministre Christiane Taubira appelle à voter pour la liste de gauche en Île-de-France. Et puis nous l'avons dit, il y a aussi les scrutins départementaux dimanche. Une déclaration fait du bruit aujourd'hui, celle de Jean Sol, le chef de file de la droite dans les Pyrénées-Orientales. Il se dit prêt à travailler avec le Rassemblement National. Nous en parlerons à 19h dans le journal de Frédéric Barrère.
Le dernier sommet européen avant la pause de l'été s'est refermé à Bruxelles tout à l'heure.
Les 27 avaient, comme à chaque fois, un menu de discussion copieux. L'Union européenne ne reprendra pas dans l'immédiat le dialogue avec la Russie, ce pourquoi plaident pourtant la France et l'Allemagne. Le Kremlin dit le regretter aujourd'hui. Les dirigeants européens ont aussi parlé de migration et du cas hongrois. Cette loi récemment adoptée par Budapest est jugée anti-LGBT par les autres États membres. Le Premier ministre Orban en a pris pour son grade. Le président Emmanuel Macron y est revenu pendant sa conférence de presse de fin de sommet. Le récit à Bruxelles d'Angélique Bois.
Stigmatiser un enfant, un adolescent pour ce qu'il est, est-ce qu'il a le droit d'être librement ? C'est un recul terrible, a estimé le président français, qui dit soutenir pleinement la réponse juridique étudiée par la Commission européenne. Mais faut-il pour autant exclure la Hongrie de l'Union ou couper ses fonds ? Comme l'ont suggéré hier deux de ses homologues, non, répond Emmanuel Macron, pour qui il faut garder dans notre giron les pays qui dérivent, Hongrie ou Pologne, pour éviter qu'ils ne sombrent totalement dans un conservatisme antilibéral sur nos valeurs.
Ça n'est pas un problème, Viktor Orban. C'est un problème plus profond dans des sociétés qui se sont battues contre le communisme, qui en sont sorties, qui ont ensuite rejoint l'économie libérale, puis l'Union européenne, et qui aujourd'hui sont en train d'être attirées par des modèles qui sont contraires à nos valeurs. Je pense qu'on doit nous réengager un travail avec des intellectuels, des sociétés civiles, peut-être être beaucoup plus présents dans la presse de ces pays, mais je pense qu'on a besoin d'une stratégie en la matière.
Il faut être dur avec les dirigeants et convaincant avec les peuples, poursuit le président français. Nous avons fait beaucoup sur les sujets politiques et financiers. Une clarification démocratique sur cette question de l'état de droit, insiste-t-il, doit devenir le prochain combat. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Et puis en Europe toujours, cet accord annoncé tout à l'heure pour une nouvelle politique agricole commune, une PAC plus respectueuse de l'environnement. Les négociations ont été âpres entre les États membres et les eurodéputés. Les nouvelles règles de la PAC doivent entrer en vigueur en 2023. En France, le procureur de Nîmes est quasiment certain que le sac à dos, le blouson, mais aussi la montre retrouvée dans le gare hier sont ceux de Lucas Tronche, cet adolescent de 15 ans mystérieusement disparu en 2015 à Bagnols-sur-Cèze. Ces découvertes sont le fruit de recherches dans une falaise où de nouveaux ossements ont également été retrouvés. Impossible pour le moment de privilégier une piste expliquant la mort de Lucas Tronche, selon le procureur. Et puis forte émotion aux assises de Chalon-sur-Saône tout à l'heure au procès de Valérie Bacot. L'accusé a fait un malaise à la mi-journée au moment des réquisitions de l'avocat général. Il demande 5 ans de prison, dont 4 avec sursis pour le meurtre du mari violent et proxénète de Valérie Bacot. Il demande à ce qu'elle ne soit cependant pas réincarcérée. Pendant l'audience, Valérie Bacot a également demandé pardon à ses 4 enfants. Direction maintenant les Baléares, les îles espagnoles pour lesquelles certains d'entre vous ont déjà opté pour les vacances. Prudence toutefois car le Covid est bel et bien là. À Majorque, de jeunes bacheliers ont créé un grand foyer épidémique, un cluster comme on dit. Après une fête géante, 500 malades et plus de 2000 cas contacts. Précision à Madrid de Mathieu de Taillac.
Ils étaient allés faire la fête à Majorque. Ils sont revenus sur la péninsule avec un invité surprise dans les valises. Le Covid, partagé sur l'île, est disséminé au retour. Tour touche désormais 7 régions, Madrid majoritairement, mais aussi la Galice, le Pays Basque, Valence, Murcie, la Castille, la Manche et l'Aragon. À qui la faute ? Un peu à tout le monde, aux jeunes qui venaient de passer l'équivalent du bac. D'abord, ils reconnaissent qu'ils n'ont pratiquement pas porté le masque pendant leur séjour. Aux organisateurs, ensuite, une enquête a été ouverte contre le promoteur d'un concert de reggaeton. La faute peut-être un peu aussi au système de vaccination espagnol, impossible, même s'il avait voulu de se vacciner en Espagne quand on a tout juste 18 ans. L'organisation fonctionne par tranche d'âge et on en est au quadragénaire. Les jeunes bacheliers pour le moment sont asymptomatiques ou ont développé des formes légères de la maladie, mais on craint bien sûr une diffusion à leurs aînés et un coup dur pour le tourisme au Baléares, la seule région d'Espagne qui vient de passer au vert sur le radar des autorités britanniques. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
À l'étranger toujours, le bilan passe à 4 morts près de Miami aux États-Unis. Les recherches de corps et d'éventuels survivants continuent dans les décombres d'un immeuble qui s'est effondré hier en Floride. D'après la maire du comté concerné, on est sans nouvelles de 159 personnes.
Un rendez-vous à ne pas rater demain matin sur France Inter, les coulisses de la culture, car on vous emmène à la Villa Médicis en Italie, et ça ne se refuse pas.
L'Académie de France à Rome semble immortelle, elle a 350 ans. et reste une vitrine incontournable de la création contemporaine. 12 pensionnaires, 6 filles, 6 garçons y exposent en ce moment leurs œuvres réalisées dans la capitale italienne. Isabelle Pasquier, la Villa Médicis a également un nouveau directeur.
Pour les jeunes artistes, écrivains, compositeurs, la Villa Médicis fait l'objet de tous les fantasmes. Les ombres d'Ingres, Fragonard, Berlioz, Debussy rôdent encore dans les ateliers et dans les sublimes jardins. Et la vieille dame que certains qualifient de belle endormie est plutôt ultra branchée sur la création contemporaine. Les pensionnaires viennent ici pour expérimenter d'autres chemins de création. Le nouveau directeur, Sam Sturze, ex-pensionnaire de la villa, est très loin du style princier, adopté par certains de ses prédécesseurs, comme Balthus. Son projet ambitieux, accueillir des centaines de lycéens de classe professionnelle.
Dans un an, avec la région Nouvelle-Aquitaine, nous accueillerons 300 élèves qui viendront s'installer au cœur de la Villa Médicis, comme leur aîné pensionnaire, passer 5 jours en résidence. La première résidence pro sera autour des métiers du bois, de bûcheron à ébéniste, les lycées professionnels, depuis le fin fond des Landes jusqu'aux confins de la Creuse, viendront s'installer à la Villa Médicis pour partager des rencontres, des conférences, des ateliers autour des questions du bois.
La Villa Médicis présentera cet été une exposition de Martine Parr et de Maurizio Cattelan et en septembre, son premier festival de cinéma sur l'art.
Isabelle Pasquier, les coulisses de la culture à retrouver demain matin sur France Inter. Une nomination à retenir, le choix de l'Élysée pour diriger le Centre Pompidou. Laurent Lebon, actuel président du musée Picasso, va succéder à Serge Lavigne. Il aura pour mission de définir un projet culturel hors les murs, car Pompidou ferme pour de longs travaux d'ici la fin de l'année 2023. Un grand été de sport cette année. Il y a l'Euro de foot, Wimbledon côté tennis. Ça commence lundi en Grande-Bretagne. Et demain, le grand départ du Tour de France cycliste. Rendez-vous à Brest pour la première étape. 197 km jusqu'à Landerneau. Il y a en tout 3414 km à parcourir, dont beaucoup en montagne évidemment. Et là, cette année, les chances de victoire française sont minces. Christian Prudhomme, le directeur du Tour, en a parlé avec Bruno Duvic à la mi-journée sur notre antenne.
Bah écoutez, il y a un seul Français qui raisonnablement peut gagner le Tour de France. Il n'est pas favori. Les favoris sont les Slovènes, Pogacar, Roglic, l'équipe Ineos avec Geraint Thomas ou Carapaz. Il y a un seul coureur dont on peut se dire que peut-être, avec des circonstances favorables, il pourrait gagner, c'est Julien Lafilippe, le champion du monde. David Gaudu, le jeune Breton, est excellent dans la montagne, mais les deux contre la montre sont certainement trop longs pour lui, il va perdre du temps. Thibaut Pinot, malheureusement, continue de soigner son dos meurtri par une chute l'année dernière au départ du Tour de France, et Romain Bardet a choisi le Tour d'Italie.
Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Voilà, du vélo, du tennis et du foot, et puis ensuite il y aura les JO de Tokyo, ça va pas s'arrêter. Vous savez d'ailleurs que la France jouera le tournoi olympique de football et l'équipe aura une certaine allure. La liste a été dévoilée cet après-midi par Sylvain Ripoll, le sélectionneur. Parmi les joueurs sélectionnés, André-Pierre Gignac, Florian Thauvin ou encore Eduardo Camavinga.
Ah ben vous en savez des choses. Merci beaucoup Raphaël Delvolvé. On va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
De la pluie sur le nord-ouest demain.
Oui, la perturbation pluvieuse qui est arrivée par la Manche aujourd'hui s'étendra demain de la Bretagne et des Pays de la Loire vers le nord de la Seine. Alors sur le nord-ouest, les pluies seront plus soutenues l'après-midi. Elles épargneront quand même la pointe bretonne. Ça s'éclaircira timidement sur la région parisienne jusqu'au nord de la Seine. Ailleurs, on aura du soleil le matin, un peu plus de nuages l'après-midi quand même de la Nouvelle-Aquitaine vers le nord-est. On ne sera pas à l'abri d'une averse orageuse isolée. Sur le sud-ouest, ça se gâtera davantage en fin de journée. Un temps agité se mettra en place avec des orages parfois violents, de la grêle et de fortes rafales de vent. Et puis il fera encore frais sur le nord-ouest et sur le nord, 15 à 22 degrés. Mais ailleurs, ce sera plus agréable avec 23 à 31 degrés clairs.
Et dimanche, des orages.
Oui, orages et averses qui vont rythmer la journée du sud-ouest au nord du pays. Des averses parfois intenses. Seul le pourtour méditerranéen restera vraiment à l'écart.
Merci beaucoup Elodie Calac de Météo France.